Erixi, irratia ezagutuko dugu datozen minutuetan. Bordale inguruan aurkitzen da, eta orain dela 30 urte hasi ziren lanean. Gaur egun, FM-an eta interneten bidez egiten dute lana besteak beste. 80.7 da beren frekuentzia. Irrati elkarte bat da, eta herritarrei ematen diete hitza, baita eragile sozial, kultural eta ekonomikoei ere. Gurekin, Pausu Mediarekin ari dira lanean, memoria historikoa bereskuratzeko egitasmo baten baitan.
Egunon entzule guztiei, gaur Blankeforreraino joan gera, Bordeletik hurbil, bizita bat egitera, Orku Irrati bati. Grunvik proiektu, europear proiektu batean parten atzai gara, eta gurekin dugu Jérôme Vigoureux. Bonjour Jérôme.
Bonjour Agus.
Donc en fait, dans le cadre de cette visite bilatérale, je suis venu un petit peu découvrir le travail que vous faites sur la question de la mémoire, et toujours dans le cadre du projet Grunvik, qu'on partage depuis presque 24 mois.
Tout à fait.
Donc, présente-nous un petit peu RIG.
Alors, la radio RIG est une radio locale située à Blanquefort qui émet sur l'agglomération bordelaise depuis une trentaine d'années. C'est une radio sous statut associatif, donc on a des bénévoles, une équipe salariée, une équipe d'administration. Cette radio, donc, comme c'est une radio de proximité, a la volonté de donner la parole aux citoyens, aux acteurs économiques, sociaux de la région.
D'accord. Et FM, Internet.
Alors évidemment, donc on est sur la bande FM.
Réseaux
sur
sociaux.
Les réseaux sociaux, c'est tout nouveau. On vit avec notre temps. Donc sur le 90.7, c'est pour la bande FM. Sur le site internet, c'est le www.rigfm.fr. Et sur les réseaux sociaux, pour information, c'est sur RIG Écoutez-vous, en tapant dans la barre de recherche, soit d'un moteur de recherche, soit du moteur de recherche de Facebook.
Oui, aujourd'hui, entre nous deux radios, on a un point commun, c'est un projet européen Grunvik, et sur la question de ce qu'on appelle la mémoire historique, le travail de la mémoire historique. Et est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur ce sujet-là, ou vous avez déjà une trajectoire et ce projet a été une étape de plus?
Alors on va dire une étape de plus, sachant qu'on s'interroge notamment, alors au milieu de la radio, mais au sein de la radio RIG, sur l'archivage. Donc il faut savoir que depuis que les radios émettent, on a eu plusieurs supports d'enregistrement, que ce soit la bobine magnétique ou encore maintenant les données numériques. En soi, cette volonté de faire une collecte de mémoire, c'est un pas en plus dans le sens où là on est allé vers l'extérieur de la radio pour ramener du son à diffuser au sein de la radio. L'idée là, c'était notamment une histoire, pour amener ce projet et comprendre un peu sa genèse, c'est une histoire qui touchait une personne au sein de la direction de la radio, dont notamment un parent a vécu le thème qui est au cœur de cette collecte de mémoire, qui est le service du travail obligatoire.
Oui, justement, pour quelqu'un comme moi qui regarde un petit peu de l'extérieur cette partie de l'histoire, c'est quoi exactement le service du travail obligatoire?
Alors, le service du travail obligatoire, c'est on va dire tout simplement une réquisition de civils, notamment donc lors de la Seconde Guerre mondiale. On a demandé aux jeunes âgés de 20 à 25 ans. En fait, c'était les jeunes qui sont nés dans les années 1920 à 23. 20 ou 24, puisque ça s'est passé en plusieurs temps. Donc à partir de 1940-41, l'Allemagne nazie, donc qui était sous le régime d'occupation en France, a demandé à ce que des Français et des Françaises viennent travailler en Allemagne pour justement soutenir, on va dire, l'effort de guerre, dans le sens où il fallait vu que en Allemagne les hommes étaient partis à la guerre. Il fallait de la main d'œuvre, tout simplement, soit dans les champs agricoles, soit dans des usines, pour justement soutenir l'effort de guerre allemand et ses alliés.
Combien de personnes on parle
De combien de personnes on parle alors qu'il y a, c'est sur l'Europe aussi en entier et en même temps sur la France. Sur la France, on compte à peu près 650 000 Français. D'accord. Sur au moins 3-4 ans.
D'accord, c'était bon, le terme obligatoire, il prédéfinit assez bien l'attitude à prendre. Après, tu vas m'expliquer un petit peu la méthode de travail que vous avez fait, etc. Ça m'intéresse beaucoup, mais qu'est-ce que c'est le ressenti général? Les gens, ils partaient tranquilles, ils partaient volontiers. Vu après l'histoire, on l'a découvert plus tard, tout ce qui s'est passé. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qu'on entendait, mais on ne savait pas trop. L'histoire a été écrite plus tard, bien évidemment, de manière plus objective. Qu'est-ce qu'on a comme ressenti de cette période-là?
Alors, d'après les témoignages directs, donc d'anciens requis que j'ai pu rencontrer moi-même, tout d'abord, il y a eu une première vague, notamment qui a été signée par le maréchal Pétain, en accord avec notamment son ministre Laval. C'est Laval qui a pris le plus d'importance quand on fait le tour de la question sur le STO. Clairement, c'était sous forme de propagande, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords qui se sont mis en place entre l'autorité allemande et l'autorité représentée par notamment Laval pour la France, qu'on appelait donc le régime de Vichy. Il a été notamment décidé que c'était des échanges au départ. Donc, c'est-à-dire qu'on placardait dans les villes où on faisait la promotion justement d'un échange de travailleurs contre des prisonniers, donc notamment français.
Ah, d'accord. Okay.
On a fait croire ça. Tout simplement, sur cette première vague, ça n'a jamais été réellement le cas. Hein, quand on fait le point sur ce qui s'est passé réellement, il n'y a jamais vraiment eu de personnes qui sont revenues, ou très peu, en échange de travailleurs. Donc c'était soit des Français et des Françaises qui pouvaient partir, donc c'était quand même assez large. Il y avait quand même une notion de chiffre à l'époque, donc c'est-à-dire qu'ils attendaient un certain nombre de personnes pour remplir leur quota. Et vu que le quota n'a pas forcément été rempli, la seconde année, ou quelques mois plus tard, on va dire même, là, c'est devenu quasiment obligatoire, où là, on faisait des convocations directes aux gens. Alors là, souvent, c'était directement aux hommes, en fait, hein, plus directement. Donc des jeunes âgés de 20 ans, 19, 20 ans.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas se présenter, de s'échapper, ou même de rentrer dans la résistance, parce que c'était une des alternatives, quoi, de rentrer dans la clandestinité.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que la résistance était un peu plus tard. Et effectivement, il y a eu, on peut classer les réactions en trois types. Vous avez, vous avez ceux qui y allaient sans vraiment savoir où ils allaient. D'accord, ils allaient dire les premières vagues, on va dire la première fois, les gens pensaient aller gagner de l'argent et sauver et faire un échange de personnes.
Ouais.
Dans les secondes vagues, les gens partaient un peu désuets, ils se disent on est un peu obligés d'y aller. Ils s'y résignaient. Ceux qui ne s'y résignaient pas devenaient ce qu'on appelle des réfractaires. Donc ils fuyaient tout simplement leur lieu de vie pour partir soit en zone libre, soit partir à l'étranger. Il y avait une autre encore possibilité à l'époque, avant 1942, c'était de s'engager dans l'armée française qui existait encore, mais qui était notamment basée dans le nord de l'Afrique. Et beaucoup plus tard, effectivement, les gens qui ont pu fuir et qui n'ont pas voulu aller au service du travail obligatoire ont pu rentrer dans la résistance, mais ils sont très peu.
D'accord.
C'est vraiment que vers la fin.
D'accord, on peut penser que d'une manière générale, les gens ils ont pris ça avec de manière résignée, ils ont accepté cette situation.
Et ils ont dû parce que derrière il y a des pressions sur la famille, sur l'entourage et que c'était clairement dit.
Qu'est-ce qu'on sait sur comment ils ont été traités là-bas?
Alors les requis.
Oui, quand ils étaient là-bas, les 650 000 personnes qui sont parties. Alors, ils étaient traités comment? Il y a eu des fusillés, comment s'est passé tout ça?
Alors, dans le récit...
C'est une histoire qu'on ne connaît pas, en fait, qui est très méconnue, on va dire.
Dans la plupart des récits que j'ai pu entendre, clairement, c'est qu'ils recevaient une convocation. Bon, on part dans le cas d'une personne qui va y aller, qui ne se pose pas de questions, mais qui se retrouve un peu résignée. Il se rend dans un bureau avec sa convocation, on lui dit vous partez quasiment maintenant en fait. Enfin, parfois il y avait des visites médicales, mais bon, enfin, encore. Vous partez maintenant, vous allez prendre le train. Donc ils partaient sans savoir où ils allaient, sans vraiment dire au revoir aux gens, parce que les gens forcément ne pouvaient pas forcément venir prendre à la gare, venir à la gare pour les voir. Ils prenaient le train, tout simplement, et ils partaient en groupe, généralement dans des wagons, soit bestiaux, soit... C'était pas des premières classes, quoi, ça c'est sûr. Il partait prenant le train, généralement ça faisait un à deux jours de train, voire trois, s'ils allaient plus loin, parce que c'était pas forcément qu'en Allemagne qu'on allait, on pouvait laisser aller en Pologne,
dans le
territoire de l'Est, voilà. Les conditions étaient un peu... étaient difficiles tout simplement dans le train, parce qu'il n'y avait pas forcément à boire, il n'y avait pas forcément d'arrêt. Pendant que le train faisait des arrêts, lui, pour que soit reprendre de l'eau pour la locomotive, soit l'alimentation soit chargée. Parfois, des personnes sautaient du train et s'enfuyaient. Donc ça arrivait. Généralement, les témoignages que j'entends, c'était pour eux, c'était des gens courageux de partir en plein... parce qu'ils pouvaient se faire tirer dessus s'ils se faisaient voir et tout. Donc certains ont essayé et ont réussi. Le chemin retour a pu être un peu plus difficile parce que là, ils devaient se cacher. Mais en soi, une fois que le train est arrivé donc à destination, les gens descendaient du train, les requis descendaient du train, et là il y avait une sorte de triage, c'est-à-dire qu'en fonction de leur taille, de leur âge, de leur corpulence et des postes à pourvoir, on leur disait bah, toi tu iras soit dans un laminoir, soit tu iras travailler dans un champ, soit tu iras travailler à la confection d'armement.
D'accord.
Donc là, ils étaient redirigés, soit leur futur patron ou représentant d'entreprise venait les chercher pour les amener, soit ils reprenaient encore une fois le train pour se rediriger un peu plus loin au Rue de Vallée.
Okay. Et vous avez choisi pour travailler la méthode de travailler aussi avec des lycéens. Pourquoi ?
Alors, dans l'idée, c'était pour compléter un petit peu le travail. On a démarré un petit peu le projet avant Grundvig, en fait. J'avais commencé déjà à être en contact avec les anciens requis. Et du coup, c'était pour compléter un petit peu le projet, dans le sens où l'idée, c'était pas forcément que de collecter les témoignages, mais c'est aussi d'en faire connaître et de diffuser un petit peu plus l'information sur cette thématique. Parce qu'effectivement, c'est très mal connu. Il faut savoir que les anciens requis du STO sont très mal vus par les personnes de l'époque qui ont vécu aussi la guerre. Parce qu'il y a une petite guéguerre, on va dire, malheureusement, il y a une guerre de la souffrance. Qui a le plus souffert de la guerre ? Il faut savoir qu'il y a à peu près trois types de déportés. On a les déportés... on a les déportés politiques, on a les déportés du travail, titre dont ils n'ont plus le droit de porter, le terme de déporté justement. Et on a aussi les prisonniers de guerre et les déportés civils, en fait ça en fait quatre, mais... et du coup, le terme de déporté est très mal vu parce que ce qu'on peut appeler les résistants, soit les vrais résistants, soit les résistants de la dernière heure, ont très mal vu le fait que des jeunes de leur époque aillent travailler pour l'ennemi.
D'accord.
Et donc du coup...
Ils ont mis plutôt en valeur les gens qui refusaient d'y aller et les gens qui allaient.
Oui, c'est ça.
L'histoire met en valeur les gens qui refusaient d'y aller plutôt que les gens qui y allaient.
C'est ça. Ouais. Tout à fait. On le voit beaucoup, notamment au moment des commémorations. Malheureusement, ils sont capables de se taper dessus parce que l'un n'accepte pas la présence de l'autre.
D'accord.
Enfin, c'est souvent plutôt l'ancien résistant.
Vous avez décidé de travailler avec des lycéens.
Voilà. Pour justement les faire travailler sur cette thématique-là et qu'ils puissent produire... des documents qui servent à faire connaître cette thématique. Donc, dans l'idée, c'était de leur faire travailler sur des recherches documentaires pour qu'ils produisent une petite brochure qu'on organise avec une conférence pour qu'ils puissent confronter l'histoire avec, par exemple, des responsables de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, un ancien requis, Monsieur Braun. Et étaient présents aussi des représentants de l'association de requis espagnols. C'est-à-dire que sur Bordeaux, on a la spécificité d'avoir une population espagnole qui est montée, qui fuit le franquisme, enfin franco. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés à Bordeaux parce qu'ils se sont fait arrêter en chemin notamment. Et ils ont été... parqués, on va dire, tout simplement, à ce qu'on appelle la caserne Niel, qui est de l'autre côté de l'eau de la Garonne, si vous connaissez Bordeaux, pour ceux qui nous écoutent. Et tous les matins, ils prenaient une petite navette fluviale pour aller du côté du quai de Bacalan pour construire notamment des abris pour les sous-marins, qu'on appelle notamment la base sous-marine. Ce sont plus de 10 000 Espagnols et Portugais qui ont travaillé là-bas pendant plus de 3 ans, 2 à 3 ans. Beaucoup sont morts et sont encore dans le béton de l'armature de la base.
Vous en laissez là, oui.
Voilà. Beaucoup plus tard sont... Enfin, il y a aussi un mouvement de résistance à l'intérieur. C'était aussi c'est assez intéressant à connaître. Et donc, dans l'idée, c'est qu'en plus de la conférence... On a fait une émission de radio, on les a aussi, on leur a appris aussi à faire des micro-trottoirs, parce que l'idée c'était aussi à eux d'aller sur le terrain pour interroger les personnes, donc on a créé des groupes, parce que tout le monde n'a pas pu y aller, hein, on a fait des groupes de travail. On les a aussi, pour la conférence, sollicités pour justement faire la communication autour de la conférence et même faire des démarches pour chercher une salle pour la conférence. Donc c'était un projet un petit peu multimodal ou polyvalent, comme on veut, dans le sens où on a essayé d'impliquer un peu tout le monde, parce que par défaut, on sait que les lycéens, quand on les met en groupe, il y en a toujours plus ou moins certains qui ne travaillent pas, et certains s'intéressent avec des compétences différentes. Donc on a aussi souhaité monter un site internet pour justement retracer tout le travail fait. Donc ce sont deux classes de lycée, donc une classe de seconde du lycée Fernandaga Mérignac qui est une classe de terminale au lycée technique de Marcel Dassault.
C'est quelle tranche d'âge ça ?
Alors c'était des secondes, donc c'était 15 ans, 15-16 ans et des terminales donc 17-18.
D'accord.
Donc voilà, ce sont...
Donc c'était un choix clair d'essayer de transmettre ou de que ce jeune et puisse connaître une partie de l'histoire qu'il a un peu méconnue.
Tout à fait, oui.
D'accord.
L'idée c'était vraiment que...
Pas simplement recueillir des témoignages, des survivants, si on peut le dire comme ça.
Il y a un travail d'analyse qui a été fait, effectivement, et ce travail leur a apporté déjà une connaissance sur l'histoire qu'ils n'auraient pas forcément acquise par eux-mêmes, ou voire par l'éducation nationale, ou seulement en très brève partie. En soi, sur les retours qu'on a, ça a intéressé à peu près tout le monde.
D'accord. Combien d'émissions ils ont produit à la fin ? Une ou plusieurs ?
Alors, une seule émission qui a recoupé donc, les micro-trottoirs, une définition du STO selon leurs recherches, des témoignages, des extraits, des témoignages des requis qui ont été sélectionnés et puis diffusés, un retour sur la conférence qu'ils ont pu faire.
D'accord.
Et à peu près, voilà, si j'ai déjà des micro-trottoirs...
D'accord. Donc j'ai un joli travail quand même.
Assez oui, parce qu'il a pris quand même, ce travail a pris au moins 3 ans, entre la collecte et la découverte des anciens requis, et le fait de travailler en milieu scolaire qui a été un petit peu difficile, parce que ça va avec les aléas du...
D'accord. Et par rapport au projet de Grootwig, et qu'est-ce que c'est un peu, c'est quoi que vous tirez un petit peu comme expérience? Vous avez reçu aussi, autant nous que des amis allemands, si je ne me trompe pas, des Radio Flora.
Ouais.
C'est une expérience intéressante de rencontrer d'autres. Et vous-même, vous êtes parti ailleurs, bien évidemment. Et des collègues de chez vous sont partis, des collègues à toi, ils sont partis dans ma radio, etc. Donc, c'est quoi un petit peu, qu'est-ce que vous tirez un petit peu de l'expérience d'un projet européen?
Alors, déjà, c'est très intéressant de rencontrer d'autres personnes de radio, on va dire à l'étranger, mais c'est en Europe, évidemment. Surtout sur l'échange sur la thématique de l'histoire, parce que aussi travailler sur les conditions des femmes lors de la Seconde Guerre mondiale, donc auprès de Radio Flora. En même temps, venir rencontrer Ayrun sur la question de
Guernica.
Sur la question de Guernica, ça apporte aussi des choses, parce que pour moi, je l'ai vu, c'était au collège, voire au lycée, dans le cadre de cours d'espagnol. Le fait de permettre justement, dans le cadre européen, de pouvoir faire des rencontres, c'est peut-être le plus important, sachant que c'est là où on peut échanger, discuter, et voir avancer ensemble, tout simplement.
D'accord. Bon, pour moi, c'est vraiment une découverte d'un sujet que j'avais entendu parler de loin, parce que moi, je fais des études en Daï, même si je suis d'Irun, et j'avais entendu parler de ça, mais c'est vraiment une découverte qui me touche, savoir qu'en plus qu'il y a ce type de débat entre eux, et c'est vraiment intéressant comme démarche.
Voilà, surtout qu'ils n'ont été reconnus réellement, légalement par l'État français qu'à partir des années fin 60.
Bon, milesker Jérôme et milesker Aitor, et on se verra sur notre projet européen, j'espère.
Très bien, merci à gauche.
Grundtvig Europar programaren laguntzarekin ekoiztutako iratzaioa entzun duzue.
Thank you.